Allons-y pour le texte. Bon, mais comme on est avec Abraham ces jours-ci, on va continuer avec une histoire d'Abraham comme papa, parce que mon thème, c'est Abraham, notre modèle de papa. Mais regardez ce qui se passe ici. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ça veut dire en sacrifice. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, Mon père, il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fiss, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. On va juste regarder la question de la paternité ici, puisque c'est la fête des pères. On ne dira pas tout. Mais tout pour dire que tout a bien fini parce que Abraham a cru que Dieu n'allait pas vraiment faire mourir son fils, et c'était vrai. Les deux sont revenus. Mais on en parlera une autre fois. On va revenir peut-être à cette diapo ici. Parce que le Nouveau Testament dit ceci à propos d'Abraham. Hébreux 11 dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Donc, il y avait cette promesse. Puis après ça, cette drôle de demande incompréhensible, sacrifie ton fils. Mais finalement, Dieu ne voulait pas que cela ait lieu. Il voulait tester, fortifier, transformer la foi d'Abraham. Mais Abraham savait que Dieu était capable même de ressusciter son fils des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ça, c'est Hébreux 11. Versets 17 à 19. Mais j'ai dit que ce matin, on va parler de la fête des pères et de l'appel spécial pour les papas. Abraham nous montre un chemin par excellence. Puis ce chemin, c'est qu'être un bon papa dans ce monde, c'est à travers une relation profonde avec Dieu. Dans notre société, les hommes ont souvent une incompréhension totale par rapport à la volonté de Dieu pour leur vie, par rapport à l'appel de Dieu pour eux, en tant que papa en particulier. Je me souviens d'une situation pastorale où je devais rencontrer un homme de carrière, un homme d'un certain âge qui avait été très ambitieux et qui l'était toujours et qui était très actif. Ce n'est pas quelqu'un de l'Oasis, essayez pas de deviner c'est qui. Ça fait longtemps de ça. Et lui, il se disait chrétien. Et moi, je connaissais sa vie, je connaissais sa famille et je voyais qu'il négligeait ses enfants, il négligeait sa femme. Et sa femme et ses enfants avaient besoin de lui. Et je lui ai dit, dans cet entretien, tu sais, tu es chrétien, toi. Puis à cause de ça, Dieu t'appelle à être plus attentif aux besoins de tes enfants, plus attentif aux besoins de ta femme. Car je sais que cela leur manque. Et je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a dit ceci, Marc, c'est bien beau ce que tu me dis, c'est même admirable, mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui peut rester à végéter. Rester à végéter. Cette réaction est révélatrice d'un problème profond. Comme beaucoup d'hommes, ce chrétien ne comprenait pas qui est Dieu vraiment, qui est son Christ. Et puis, à cause de ça, ne voyait pas le côté aventure, le côté défi, le côté invitation à la transformation et à la conquête que Dieu donne à tout homme en Jésus-Christ. Alors, sans vouloir être catégorique, sans vouloir déplaire à mes sœurs, je vais parler un petit peu des hommes aujourd'hui, selon ce que moi j'observe. Et évidemment, c'est très dangereux de généraliser, mais je vais le faire quand même, avec nuance. Mais moi, je vois qu'en général, l'homme, le papa, le chef de famille, en général, c'est quelqu'un qui est attiré vers l'extérieur du foyer, vers quelque chose que si cette chose le passionne, il va y donner son cœur, il va y donner son travail, il va laisser aussi cette chose et ce travail définir son estime de soi. Puis, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas nécessairement mauvais, ça. C'est la manière que Dieu a créé les hommes. Je généralise. Chaque homme est différent. Il y a même des femmes qui sont comme ça aussi. Mais je dirais, j'observe que c'est ça le défi du papa, du chef de famille, de l'homme, c'est de gérer cette attraction vers l'extérieur. Et c'est pas la chose, c'est pas cette attraction qui est mauvaise. C'est quelle chose que tu choisis pour t'attirer qui peut être bonne ou mauvaise. Parce que la Bible suggère que Dieu a créé l'homme avec cette propension vers l'extérieur et cette passion de se donner à cela. Et ce que Dieu te demande dans l'Évangile, ce n'est pas d'enlever cette passion. Ce n'est pas de la couper pour devenir un homme sans passion comme un légume, un peu comme cet homme d'affaires me disait, « Je ne peux pas faire ce que tu dis, je ne veux pas devenir un légume. » Non, je ne te demande pas de devenir un légume. Ce que Dieu te demande, c'est que tu découvres le royaume de Dieu, mon frère. C'est que tu découvres le plan extraordinaire de Dieu pour le monde et puis que tu tombes amoureux de ce plan, que tu tombes amoureux de ce royaume et de son roi, le roi Jésus-Christ, puis après ça, investis, mon frère, ta passion, non pas pour posséder le monde extérieur, mais pour travailler avec Dieu, pour transformer le monde extérieur. Amen? Est-ce que vous arrivez à me suivre un peu? Oui? OK. Quand un homme comprend que Dieu est en train de transformer le monde, puis que moi, il m'appelle à travailler avec lui dans le monde, mais à ce moment-là, ce n'est pas juste dans le monde. Le travail du royaume, le travail de transformation que Dieu fait, tu l'amènes dans ta maison aussi, mon frère, avec ta femme, avec tes enfants. Tu marches avec eux pour les inviter, toi aussi, eux aussi, à travailler avec Dieu. Puis, par ailleurs, tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur toi-même pour te laisser transformer. Avec tout ça, il y a tellement à faire qu'on n'a pas le temps de végéter, mes frères. Dieu nous met au travail, et puis c'est quelque chose de passionnant. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie chrétienne, mais c'est une mauvaise chose de donner l'impression aux autres qu'être un homme chrétien, c'est végétatif, c'est plate, c'est émasculant. Non, non. À travers le royaume, Dieu veut faire de nous des vrais hommes, mes amis. Donc, pour préciser, je vais donner trois types de chefs de famille. Puis on va les regarder un à la fois, deux qui sont mauvais dans un sens. des hommes qui n'ont pas vraiment compris l'appel de Dieu pour eux. Puis le troisième, c'est le bon type, c'est le type Abraham. On y va? Le premier type de chef de famille, de papa, c'est le chef de famille dont la passion est frustrée. Il y a beaucoup d'hommes dans notre société qui se sentent vaincus. Pourquoi? Parce que le projet de conquête dans le monde extérieur qu'ils avaient imaginé n'a pas fonctionné. Leur projet n'a pas fonctionné. Vendredi, Cheryl et moi, on est allés voir un très beau film au cinéma, La Bolduc. Un film qui joue encore, mais presque plus. On a trouvé un cinéma loin à Saint-Léonard qui le jouait encore. On était quatre dans le cinéma, mais quel beau film! Je vous le recommande. Alors, dans ce film, il y a un monsieur qui s'appelle, un père de famille, un mari qui s'appelle Édouard Bolduc, qui est un ouvrier, puis il a du mal à trouver un emploi stable. Ça se comprend, c'est durant la crise économique. Et suite à un accident de travail, il se trouve alité, puis sa femme, qui s'appelle Mary, un peu comme John Mary, il est en bas peut-être, mais Mary, elle s'appelle elle. Et elle, secrètement, elle sort pour trouver des petits jobs, pour aider à payer les factures. Mais je dis secrètement, pourquoi? Parce que Édouard, lui, dans sa fierté, mais aussi pour respecter la tradition, il voulait rester le seul pourvoyeur financier pour la famille. C'était comme ça à l'époque. Et c'est alors que Mary, qui se faufile ici et là, trouve du travail dans le monde de la production musicale. Et Mary, elle a un talent musical qui est en veilleuse, parce qu'elle faisait de la musique jeune, mais depuis qu'elle est mère de famille, elle n'avait pas le temps. Et là, son talent se manifeste. Puis là, elle commence à avoir de plus en plus de succès dans ses job-ins. Et là, on lui demande de faire des chansons, d'enregistrer des chansons. Elle a un succès et après ça, un revenu qui devient de plus en plus appréciable. Elle va devenir la Bolduc, parce qu'en fait, son nom, c'était Mary Bolduc, la femme d'Édouard Bolduc. Puis, elle est devenue une grande star de la chanson populaire québécoise dans les années 30. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu des chansons de la Bolduc? Oui, c'est très connu. C'était une superstar. Mais Édouard, dans tout ça, Édouard, lui, il continue à avoir des problèmes d'emploi. Il se sent humilié par le succès de sa femme. Et hélas, il va se tourner vers l'alcool, vers la taverne. Son projet de vie à lui a été frustré. Et il n'a pas compris l'appel de Dieu pour lui dans cette situation-là. Alors, peut-être que toi, tu es dans une période de ta vie où tu dis, je peux m'identifier quand même à Édouard. J'ai déjà passé par des périodes comme ça dans ma vie. Dieu te dit, si c'est ton cas, Dieu te dit quelque chose ce matin, ne laisse pas le monde, ne laisse pas la tradition du monde définir ton estime de soi. Mon frère, tu es un appelé de Dieu dans le travail du royaume. Puis même si tu vis une période de difficulté, même si tu vis une période de chômage, mais dans le royaume de Dieu, tu ne seras jamais en chômage. Tu as toujours ton rôle à jouer. Je pense qu'Édouard, lui, il ne comprenait pas l'appel du royaume pour lui à ce moment-là. Vous verrez qu'il évolue dans le film, mais je ne vous raconterai pas parce que vous pouvez regarder le film. Édouard ne comprenait pas le royaume, mais toi, mon frère, j'espère que tu comprends le royaume. Il n'y en a pas de chômage dans le service du royaume. Peut-être que maintenant, tu dois soutenir ta femme, aider ta femme à entendre la voix de Dieu dans le rôle qu'elle joue maintenant. Tu dois continuer à chercher du travail, à ne pas te décourager. Vas-y au jour le jour. Dieu va te montrer la conquête que tu dois faire aujourd'hui. Une fois que tu as entendu sa voix, vas-y, fais ce que tu as à faire. Le deuxième type de chef de famille, qui est un mauvais exemple, c'est celui qui est gagné par une fausse passion, une passion qui vient du monde et non de Dieu. Quand on est chrétien, ou plutôt quand on n'est pas chrétien, on peut être attiré vers le monde extérieur avec l'idée « je dois convoiter puis travailler pour posséder et accumuler de la possession ». Michel Houle nous a parlé de la tour de Babel, puis c'est un peu ça, hein? C'est cette idée « je travaille pour acquérir, pour posséder ». Dans le royaume, Dieu m'appelle à travailler dans le monde avec Dieu pour que Dieu entre dans ce monde et le transforme. Puis ça peut se faire même dans un travail séculier. Donc c'est une autre attitude, une autre façon d'approcher même le travail dans une usine, même le travail de service, même le travail dans une compagnie ou dans une école. Pas besoin d'être pasteur pour travailler avec Dieu dans le royaume. Si tu te laisses, par contre, gagner par la convoitise du monde, voici ce que dit les Écritures. Cela peut te détruire. Cela peut détruire ta famille. Cela peut détruire ta relation avec tes enfants. Mon frère, pense-y bien. Pense-y bien. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise humaine, la convoitise des yeux, l'orgueil des richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, je t'invite, mon frère, surtout toi qui es papa, mais pas seulement. Il y en a qui ne sont pas papa, mais je t'invite pareil à regarder ton cœur. C'est-tu la convoitise de posséder, la convoitise d'être un grand bonhomme, la convoitise d'être meilleur que les autres qui me dirige? Ou est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que je veux travailler avec Dieu pour le refléter dans le monde? Si tu choisis cette deuxième option, Jésus te dit, mon fardeau va devenir léger et ça va bénir ta relation avec ta femme et tes enfants. Regardons rapidement le troisième type, le type Abraham, celui qui nous sert de modèle ce matin. Le type de père de famille. Parce qu'aujourd'hui, Abraham est notre modèle, il a marché par la foi. Puis toi, mon frère, peu importe ta situation, tu es appelé à marcher comme Abraham ce matin. C'est par la foi, on a lu, qu'Abraham a offert Isaac. Il savait que Dieu était capable de le ressusciter des morts, puis c'est un peu ça qui est arrivé. Alors, on peut se dire, parce qu'on a lu cette histoire, on peut se dire, mais ça existe aussi la folie religieuse. Ça existe aussi l'exagération de la piété, quand même. Est-ce qu'Abraham n'aurait pas dû se dire, non, mais je suis devenu fou. Je suis en train de me faire à croire que Dieu me demande quelque chose de fou. Après tout, Abraham aurait pu perdre son fils par sa propre main. Puis même à ça, même si Abraham, son intuition était juste que Isaac ne mourrait pas, ce qui est arrivé, mais on peut se dire, mais est-ce qu'Isaac n'a pas été traumatisé à vie en voyant le couteau comme ça que son père a levé devant lui? Est-ce que je devrais être en train de dire au papa, n'essayez pas ceci à la maison, comme dans certaines annonces? Vous savez, je ne vais pas dire ça, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu radical qui appelle les hommes et les femmes à une foi passionnée, une foi qui parfois doit prendre des grands risques pour le royaume, des risques qui paraissent fous aux yeux du monde. Mais si tu apprends à écouter la voix de Dieu, un peu comme Cathy nous disait, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il faut croire qu'en quelque part, Abraham avait appris à écouter la voix de Dieu, puis dans cette histoire-là, il avait vraiment entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui demandait de faire quelque chose de fou, et il a obéi. Dans des situations comme ça, tes enfants vont peut-être être secoués. Tes enfants vont peut-être souffrir, mais ils vont apprendre une chose de très précieux, parce qu'ils vont voir qu'est-ce que c'est qu'un homme qui marche avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un papa qui suit le Seigneur. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a juste toi qui peux faire, mon frère. Quand je vois des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, je me dis, c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, je me réjouis parce que Cathy, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir et maintenant, elle s'engage dans une vie avec Dieu et c'est merveilleux. Il y en a plusieurs autres. Et en fait, moi, je voulais parler, puisqu'ils ne sont pas là, je vais parler des Marinos. Les Marinos qui sont nos frères et sœurs à Dakar. Parce qu'il y en a une autre qui va venir nous parler. Héloïse va être avec nous. Héloïse Marino, la semaine prochaine. Et moi, ça m'a secoué un peu la décision des Marinos de tout abandonner, partir dans le désert. Je ne sais pas, ça fait une dizaine d'années de ça. Ils sont partis dans le nord du Niger pour évangéliser les Touaregs, un peuple non atteint du désert. C'était, à ce que je sache, c'était parmi les premiers Québécois qui se joignent aux équipes de l'ACM pour aller vers les peuples complètement non atteints. Et elle, Héloïse, qui est maintenant adulte, elle est partie avec eux. Et on peut se demander, est-ce qu'elle a été traumatisée par le sacrifice que son père, avec sa mère, ont décidé de faire? Elle a comme fait son secondaire dans le désert avec une tutrice, elle a dû revenir ici pour faire son cégep, son université, si je me souviens bien, séparée de ses parents, habiter toute seule en appart. Et est-ce qu'elle a été traumatisée? Bien, je n'ai pas l'impression. Mais on pourra lui poser la question la semaine prochaine. Elle, pourquoi est-ce qu'elle va venir nous parler? Elle a décidé de devenir missionnaire à son tour. Elle a décidé, elle aussi, comme Cathy, de suivre Dieu. Puis là, elle travaille dans l'évangélisation des étudiants du Québec. Et elle va nous en parler un petit peu la semaine prochaine. Puis, je me dis, wow! Hein? Il semble qu'elle n'a pas été traumatisée par la folie de ses parents et de son père. Une chose qui m'a touchée et qui m'a enseignée dans l'approche de Daniel et de Sophie avec leurs enfants, je trouvais toujours qu'ils mettaient leurs enfants égal avec eux, ou presque. Que les enfants étaient comme des partenaires dans la mission avec eux. Il y avait toujours un dialogue ouvert sur ce que les parents faisaient dans leur ministère. Et je trouvais que c'était une bonne approche. Hein? Un peu comme Abraham ici avec Isaac, le dialogue est ouvert. Même si tout ce qui se passe est pas mal fou, quand, euh, quand Isaac, il ouvre le dialogue avec son père ici, « Il est où l'agneau, papa? » Et son père lui dit, la seule chose qu'il peut lui dire, « Mon fils, regarde, on va faire confiance à Dieu que Dieu va pouvoir l'agneau. Hein? » Abraham ne dit pas, « Mon fils, tais-toi, ça c'est entre moi et Dieu. Toi, fais juste ce que je te dis, reste silencieux. » Parfois, on est comme ça avec nos enfants. « Taisez-vous, les enfants. » Laissez les adultes gérer leur relation avec Dieu. Et moi, j'ai trouvé que les Marinos étaient un bel exemple d'inclure toutes les générations, les parents, les enfants, dans la folie du royaume. Et puis, il me semble que dans le cas d'Héloïse, eh bien, il y a un beau résultat, mais on va prier aussi pour les autres enfants qui sont maintenant à Dakar dans une nouvelle mission, Marianne et Antoine avec les Marinos. Voilà. Donc, tout ça pour dire, ayons cette foi qu'Abraham a eue, et parfois, on va être obligé de faire des choix qui sont risqués, parce que Dieu est un Dieu du risque. Puis, oui, je vois aussi Jean et Cléricia, qui vont s'engager bientôt pour présenter la petite Abiana au Seigneur. Et toi aussi, Jean, Dieu t'appelle à être comme Abraham. Amen. Amen. Comme nous tous. Et c'est une belle chose. Donc, on va conclure. Oui, on va conclure. En cette fête des pères, je t'encourage, mon frère, à persévérer dans la foi. Gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour la foi que tu as, pour le service du royaume que tu fais déjà. En persévérant dans la foi, mon frère, tu vas devenir un homme encore meilleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux aller encore plus loin. Comme le prophète Ézéchiel, il a été invité à aller plus loin avec Dieu. Vous savez que dans la fin du livre d'Ézéchiel, eh bien, Dieu appelle le prophète au bord d'un fleuve. C'est dans une vision. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Puis, ça parle de notre époque. Puis, il dit, Ézéchiel, approche-toi du fleuve. Le fleuve, il sort du temple. Le temple, ça symbolise Christ. Puis, il dit, viens au bord du fleuve. Puis il y va. Puis là, il dit, bien là, marche dans le fleuve. Puis là, il se met à marcher. Puis là, il se rend jusqu'aux chevilles. Puis là, Dieu dit, va plus loin, Ézéchiel. Puis là, il se rend jusqu'aux genoux. Puis là, Dieu lui dit, Ézéchiel, encore plus loin. Il se rend l'eau et jusqu'aux hanches. Puis il se dit, peut-être, hey, je suis pas pire. Hein? Puis là, Dieu lui dit, va dans le creux, Ézéchiel, va encore plus loin. Et puis finalement, il se rend compte, wow, le creux, c'est que l'eau va être là, puis mes pieds ne toucheront plus. J'aurais perdu le contrôle, mais Dieu aura le contrôle sur moi. Et Dieu lui dit, vas-y, puis il y va, puis il est complètement immergé. Et toi, mon frère, toi qui es papa, toi qui es mari, écoutez, donne le contrôle à Dieu. Est-ce que c'est plus grand que nous, ce que Dieu nous demande? Demandons à Dieu maintenant de prendre le contrôle de nos vies. Est-ce que tous ceux qui veulent, levez-vous, on va prier ensemble. Et puis, si vous voulez prier après moi, vous pouvez prendre la parole. J'inviterai la musique à se préparer. Alors, prions le Seigneur. Ô Père de gloire, on veut se repentir, puis on veut croire. Père, on veut plonger dans ton Saint-Esprit ce matin pour être les papas que tu veux que l'on soit. Je sais que j'ai déjà fait du chemin, Seigneur. Aide-moi à aller encore plus profond en toi. Amen. Amen. Si tu as un mot à dire au Seigneur, dis-le maintenant. On t'écoute. On prie avec toi, mon frère.
Oh oui, Père, merci.
Et pour chaque prière qui n'a pas été dite, mais qui est dans le cœur, Seigneur, merci d'entendre. Merci d'être avec ceux qui sont en train de te dire, je te donne tout, Seigneur. Parce que c'est la prière que tu aimes et tu l'entends toujours. Maintenant, Père, guide-nous alors que nous allons célébrer ton nom de tout notre cœur par le chant. Amen.